le plateau du tout monde.
Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission Plateau du tout monde. Merci Holden pour ce générique live au violon. Cette émission souhaite proposer un rendez-vous régulier. Aujourd'hui au Lila, en public, au 15 rue Chassagnol, dans ce lieu pour respirer, mais aussi sur le web à l'adresse de la radio haute r22.fr. Ce rendez-vous se veut être un dialogue entre les acteurs des territoires, les contributeurs, les contributrices, les citoyennes, les militantes ou les habitants. Et ce soir, nous partons pour Romainville, départ suggéré par Simon Marigny, maître d'œuvre de l'émission et du lieu qui nous accueille, ce lieu pour respirer. Avec lui, Frédéric Matevet, armé de son enregistreur, il est plasticien sonore et compositeur, rédacteur en chef de la revue en ligne L'Autre Musique. Quelques représentations personnelles avant ce départ pour Romainville. Un fort d'abord, lieu d'internement pendant la guerre. Une ville qui domine avec sa tour et maîtrise d'ondes radio. Un souvenir d'un cours d'histoire avec la bande à Bono, anarchiste végétarien, au temps de la belle époque motorisée. Des immeubles ensuite et des arbres, beaucoup d'arbres, à la lisière de Paris. Ce sont de ces arbres, de la forêt de la Corniche des Forts, dont il va être question ce soir. Des corps incroyables installés sur une ancienne carrière de gypse, exploitée pour la fabrication du plâtre. La forêt s'étend sur plus de 25 hectares. Un peu plus haut, 3000 logements, la cité Gagarine domine cet écosystème d'une rare richesse. Aujourd'hui, la forêt est entourée de grandes barrières blanches qui la séparent de la cité et des jardins ouvriers alentour. Un après-midi de semaine, le son qui domine est celui des pelleteuses et des engins de chantier. Un projet d'aménagement d'une base de loisirs remet en cause la vie politique, sociale et écologique de la ville depuis des années. L'émission Plateau du Tout Monde est donc un moment pour respirer, alors respirons ensemble et rencontrons, échangeons. Échangeons avec Julie Lefebvre, engagée associative dans un collectif interassociatif et citoyen, mais également vice-présidente de l'association Patrimoine et Environnement. Sylvain Piron également, historien et militant associatif. Mohamed Boukanmi de l'association Droit au Logement HLM, Spoutnik de Romainville. Mais commençons en laissant place à la lecture. La lecture proposée par Mélanie Yvon, autrice et artiste, et Litsa Georgieva, cinéaste, performeuse et autrice. Elles ont écrit ensemble un texte à quatre mains, qui paraît dans AOC, Le Grand Paris par Epic Games. Pour une lecture performée du texte, on vous écoute.
Avant de tout monde, le plateau de tout monde.
Il est désormais possible de faire l'acquisition d'un lot protégé, où régnerait calme et tranquillité. La promotion disait « Villa Natura ». La naissance, c'est ainsi, c'est le cours des choses. La promotion disait « Villa Lumea ». Et si le luxe était de vivre entouré d'arbres en centre-ville ? Le cours monte et moi je descends l'avenue à pied. Seulement 1,8 km de Paris. Je lèche le béton, c'est sec et froid. Je me relève, puis fais quelques tours de cité avec mes nouvelles chaussures, en traînant des pieds pour le colorer. Virginie m'attend en retrait. Elle est sur la plateforme pour me demander comment pourrait-elle m'aider. Je lui demande des informations sur la villa.
Tous les lots sont partis.
Je la questionne sur la manière dont ils se sont envolés et sur la façon dont ils vont déplacer ce qui se trouve ici. Une musique d'aventure, suivie d'une musique inquiétante, vient perturber le début de notre conversation.
L'histoire commence ici, ligne T1, Noisy-le-Sec, Terminus. Le tram s'arrête, l'histoire commence. Le tram s'arrête.
Les voyageurs sont tous priés de descendre.
Certains continuent à pied, font un tour à la galerie d'art de Noisy, une course à la boutique d'objets, un saut sur le canal. Je grimpe dans le bus 105 et je continue de tracer des lignes imaginaires de ce qui est en jeu. Une ville qui s'agrandit, une nouvelle carte est constituée, un souvenir des voyageurs qui descendent au terminus. L'histoire commence ici, et c'est l'histoire d'un lapin, entre autres. C'est aussi l'histoire d'un cosmonaute, de deux collégiennes et de plusieurs panneaux publicitaires. Les collégiennes s'en foutent du cosmonaute, et le lapin aussi d'ailleurs.
Elles ont des capacités optimisées.
Le lapin est rare et inouï. On peut le voir dans la forêt. Un danger terrible le menace, et il n'est pas au courant. C'est aussi l'histoire d'un Brix qui vit dans la Cité Blanche et qui m'invite à boire un thé. Elle veut me raconter un secret. Elle a enterré quelque chose dans la forêt de Romainville.
Une carte ou une arme.
Dans cette forêt sauvage, il y a des animaux exceptionnels. Tout ce qu'on ne voit pas dans les villes, comme par exemple des lapins, mais aussi des oiseaux d'enjeu élargi et des reptiles d'enjeu prioritaire. Aujourd'hui, je dois à tout prix rejoindre mes alliés et empêcher l'avancement des machines du côté de la dune et à long terme, sauver la forêt de la destruction et tous ses habitants, tels que les lapins, mais pas que. Je suis pressée.
Bonjour, je suis votre conseiller en ligne. Comment puis-je vous aider ?
Bonjour, je voulais savoir si la villa allait se trouver à la place de la cité GGR. Si c'est le cas, serait-il possible de déplacer les habitants avec les tours ?
Bonjour et bienvenue chez le promoteur immobilier. Oui, le projet sera situé à cet emplacement. Que recherchez-vous ?
Des informations sur la manière dont vous allez la déplacer.
Je ne pourrai pas vous dire.
Il me semble qu'il n'y a pas de terrain vide à proximité.
Je suis au siège à Toulouse. Vous avez un projet d'achat immobilier ?
J'espère que votre siège est confortable. Le mien, il est moyen. Pourquoi pas acheter ? Oui, l'emplacement me semble stratégique et je pense que vous ne pouvez que me le confirmer.
Je vais demander au responsable du projet de revenir vers vous afin qu'il vous apporte les précisions souhaitées.
Comptez-vous déplacer les habitants avec les tours ?
Pour ce faire, je vais prendre vos coordonnées, s'il vous plaît.
Si ce n'est pas le cas, je préfère donc l'autre villa.
Bonjour, je suis votre conseiller en ligne. Comment puis-je vous aider ?
Cette manipulation n'est-elle pas trop dangereuse ?
Je ne suis pas sur le secteur pour vous renseigner sur ce point. Je vais demander au responsable du projet de revenir vers vous afin qu'il vous apporte les précisions souhaitées. Que recherchez-vous exactement ?
Un endroit où régnerait le calme et la tranquillité.
Vous recherchez un bien de combien de pièces ?
Je ne sais pas, moi, au moins 3.
Vous recherchez uniquement sur Romainville ?
Romainville me semble être un emplacement stratégique pour acheter et je pense que vous ne pouvez que me le confirmer.
Vous déterminez un budget ?
Entre 200 000 et 250 000 V-Bucks.
Je vais demander au responsable du projet de revenir vers vous afin qu'il vous apporte les précisions souhaitées. Pour ce faire, je vais prendre vos coordonnées, s'il vous plaît. Avec votre budget, nous allons être sur Drancy ou les pavillons sous bois. Et il s'agira d'un T1, pas d'un T3.
Oui, mais c'est moins stratégique.
Oui, mais ça correspond à votre budget.
Et où le quartier actuel sera-t-il déplacé ? Avez-vous déjà une stratégie fiable pour éviter qu'il ne s'écroule pendant le trajet ?
Je ne suis pas sur le secteur, je suis au siège à Toulouse. C'est pour ça que je vous propose que le conseiller vous recontacte.
J'espère que votre siège est confortable, je m'en occuperai. Je suis dans le bus 105. J'avance lentement sur l'avenue Lénine, entre les chantiers. J'explore cette nouvelle constellation. Je ne suis pas d'ici. Je suis née à 2400 km d'ici, dans une ville où l'avenue Lénine n'existe plus.
Je prends le bus 105 qui va des Lilas au pavillon sous bois. C'est le bus qui sépare les histoires, alors je penche la tête pour la faire glisser sous ma capuche.
Je suis arrivée il y a plusieurs époques, convaincue par un tramway assez semblable au T1.
Derrière moi, j'entends qu'ils sont montés ici avec des machettes, des battes de baseball et des couteaux. Des trucs qu'ils ramènent probablement de leur pays ou d'ici. Virginie, ça, elle ne me l'a pas dit.
Entre deux friches, j'aperçois la première collégienne qui roule doucement en accompagnant le bus.
Natura et Lumea, c'est fini. Alors je referme le coffre et j'opte pour la cabane au pavillon ou à Drancy.
À mes côtés est assise Leila, sa meilleure amie. Sonia klaxonne et fait un long flip avec son scooter pour frimer un peu. Leila la filme avec son portable sans trembler.
C'est un travelling long.
Ça va durer des années, des décennies, des siècles au moins, le temps qu'il faut pour archiver le sourire de Sonia et la course romanesque qu'elle entreprend dans ses lieux en voie de mutation. Je souris à Leila. En retour, elle tourne le portable vers moi et je comprends que je fais désormais partie de l'équipe. La voix mécanique du bus interrompt notre tournage pour nous annoncer
« Stalingrad, terminus ».
Tous les voyageurs descendent du bus. Le bus s'arrête, Leila descend et disparaît dans un buisson. Je vois que Sonia s'est arrêtée aussi en me faisant un signe. C'est désormais elle qui m'emmènera à Ambrix. J'ai horreur des grandes vitesses. Je m'agrippe à Sonia. La traversée commence soudain.
La rue Karl Marx.
Travaux en cours.
Le boulevard Louise Michel.
La tempête est proche.
La rue de la Résistance.
Chantier encore.
La ville devient orange.
Le casque de Sonia se met à clignoter et je comprends que je dois entendre son récit.
Ils ont tout pris. Nos villes, nos familles et les rares survivants sont en grand danger. L'heure est venue de riposter. Explorer des décors à chaque fois nouveaux et différents pour collecter des matériaux de construction et d'artisanat. Pensez à rentrer dans les bâtiments. Ça peut rapporter gros. Tout ce que vous amasserez servira ensuite à vous protéger. contre la tempête, vos amis et vous devrez construire des forts. Vous devez tenir l'ennemi à distance. Le mode modification vous permet de tout personnaliser. Installez des portes ou des fenêtres, ou soyez plus créatif. Les matériaux les plus solides, comme la pierre ou le métal, rendent le fort plus résistant. Vous pouvez construire à la volée, afin de réagir plus rapidement et vous adapter à chaque menace. Vous n'avez pas fabriqué tout ça pour le voir se faire démolir. Défendez votre fort. Installez une tour de sniper ou construisez un labyrinthe tressé de pièges si vous préférez ne pas vous salir les mains.
Soyez imaginatif.
Fabriquez des pièges pour surprendre l'ennemi. En gérant bien vos ressources, vous serez capable d'affronter tout type de menace. Les constructeurs sont doués pour construire des forts, mais sont aussi très bons en contrôle des foules. Réunissez des amis et formez une équipe polyvalente.
La coopération, ça peut faire toute la différence.
Sauvez les survivants et donnez-leur un abri. Faites tout votre possible pour les défendre.
Le monde a besoin de vous.
Ne cherchez pas un abri, construisez-le.
Gagarine, je ne sais pas qui c'est, mais je sais où c'est. J'évite d'y aller le soir. Dans la nuit de 11 janvier, des joueurs et des autres cités ont débarqué. Ils avaient des armes qui ramenaient de leur pays probablement, ou d'ici. Ça avait même été filmé. Il y a eu un mort. Mais moi, à chaque fois que j'ai traversé la cité, je me suis sentie vivante. Le jour, le lieu est magique. Enfin, il ne faut pas idéaliser non plus. Je vais déménager. J'avais pensé à New York. Il paraît que c'est sympa aussi. Mon endroit préféré ici, c'est un peu après la cité, la grande tour d'où l'on voit la ville. On adore traîner là-bas avec les alliés, écouter de la musique. Je me souviens d'un jour, au mois de février, quand la journée déclinait tôt, les lumières de la ville se sont allumées une par une et j'ai pensé à tout ce qui est absent et qui nous habite. Je pourrais t'y amener quand tu auras fini ta mission. Je réalise que Sonia n'est pas au courant de ce qui est en train d'arriver et je me dis que c'est mieux ainsi.
Noisy, marché. Au marché, rien de spécial. Il se passe rien. Pas de poucave ici. Rien de spécial, en fait, à vrai dire, à part niveau musique, tout ça. Là, il y a plein d'artistes.
Il y a des gens qui sont sortis du quartier un peu?
Il y a la caution, même si c'est un autre registre. Il y a Tonton Skoll qui arrive aussi. Inch'Allah, il y en a, en fait, il y en a.
Et des projets?
Il y a un clip qui tourne déjà. Liberté d'expression. Un petit street clip qu'on a fait pour faire plaisir au petit frère, qui s'appelle Black Rital, avec les potes de Montreuil-Bel-Air. Il y a des clips qui arrivent, des freestyles, tout ça. Parce que lui, il sort du shtar, c'est le zincou. Il fait partie de l'équipe, tout ça, il n'était pas là pendant un bon moment. Là, il est sorti, hamdoulah. Donc maintenant, on est en train de préparer le projet qui s'appelle les punchlines de la S. C'est un projet qui promotionne un autre projet et d'autres projets encore. Noisy-le-Sem, ça arrive et ça va être sale. Vous allez seulement entendre les échos.
Virginie se lève et tend l'oreille.
Elle semble inquiète.
Ses projets semblent s'éloigner de ce qu'elle met en avant, c'est-à-dire
le calme et la tranquillité.
Nous sommes à présent devant le collège du Mur. Avant de me montrer le chemin pour chez Ambrix, Sonia doit suivre quelques cours et je suis obligée d'aller avec elle. C'est pour qu'on puisse optimiser nos capacités.
La tempête éclate.
On se dépêche à l'intérieur. Le cours sur la confection des arbres est d'une durée démesurée. La classe est pleine de jeunes êtres de tout âge et de tout genre, dont certains me regardent avec intensité. J'adopte une expression hostile, je plisse les yeux, je gonfle mes joues et je tourne mes oreilles dans le sens des aiguilles d'une montre, mais je comprends vite que cette méthode ne fonctionne pas ici. À mes côtés, Sonia s'est endormie. Nous enchaînons avec un cours sur la fabrication d'armes à partir de matériaux récupérés, puis en cartographie contemporaine. Plus tard, nous devons courir autour de la zone pendant 30 minutes pour améliorer nos performances physiques et pour finir, subir un atelier d'écriture. L'exercice dans ce dernier cas consiste à ce qu'on invente le scénario de notre vie. Certains se voient rebelles, d'autres des monstres d'élite et des sorcières, d'autres encore n'ont rien écrit du tout. C'est le cas de Sonia, on la traite de mauvaise foi, évoquant son fainéantisme habituel. La sonnerie explose.
L'œil de la tempête s'éloigne.
Sonia et moi, nous nous échappons dans les couloirs sombres du collège et quelques niveaux plus haut, nous sortons sur le toit. De là, nous pouvons observer le quartier jusqu'aux extrémités nord et est, entre les lilas et Noisy-le-Sec. La grande tour de Pantin envoie des couleurs psychédéliques dans le ciel. Sur le rocher de la lune, un autre indice clignote en rouge. Sonia me montre la tour d'Ambrix, juste derrière le rocher, puis très près de la cité Gagarine. Il faudra suivre les lucioles qui m'indiqueront la route, puis grimper sur quelques panneaux publicitaires afin de s'accrocher à une grue qui me propulsera en plein milieu de la cité. De là, il faudra courir ou ramper.
Espace vert situé croisement rue des Carrouges et avenue du Général Leclerc. 90-130, Noisy-le-Sec. Le terrain proposé s'étend sur une surface d'environ 700 m². Il s'agit d'un espace vert aujourd'hui peu utilisé et pouvant faire l'objet d'un aménagement sportif au regard de sa situation privilégiée, à proximité du quartier du Londeau, mais également d'un secteur plutôt pavillonnaire, peu pourvu en équipement sportif.
Je projette d'y installer des barres fixes, des barres parallèles et des échelles de suspension.
Parc sportif situé 2 rue Jules Auffray, 52 boulevard Roger Salengro, 93-130, Noisy-le-Sec. Le terrain proposé s'étend sur une surface comprise entre 650 et 2000 m². Situé au sud du territoire, en limite de la ville de Romainville, à proximité de la place Carnot. Lieu accueillant un grand nombre de lignes de bus. L'arrivée de la ligne 11 et du T1 permettra une desserte optimale de ce parc sportif. Secteur dédié au sport et aux loisirs. L'emprise proposée aujourd'hui est peu utilisée, excepté lors de compétitions de pétanque. Le secteur de l'ancienne piscine à l'ouest est en cours de requalification.
Je projette d'y installer des espaliers et des parallettes.
Une voix enregistrée fait entendre les différentes figures que je suis en train d'effectuer.
360 muscle-up, archer pull-up, leg lifts, pistol squats, reverse grip, muscle-up, parallel, handstand, push-up, box pull-ups, body hold, push-up, extreme, muscle-up, one arm chin-up, L-sit, handstand, full body push. Up, reverse clap, push up, planche, Russian dip, knee clap, muscle up, double knee clap, dip, half tiger, bend, hammer, chin up, Superman, push up, dragonfly, move, A-tie, push up, box, jumps, front, lever, double chest. Hit, push up, toe, touch, pull up, muscle up, burp up, clap, pull up, human flag pole.
Tu t'es toujours dit que tu serais gagnante à te développer physiquement, à changer ton corps pour qu'il devienne plus performant. Que ça soit pour te maintenir en forme, avoir une meilleure hygiène de vie, pour t'inscrire dans une dynamique de gagnante, pour séduire la femme de tes rêves ou simplement pour nourrir ton ego. Ce qu'il te faut à toi, c'est un physique athlétique, sculpté dans des proportions naturelles et harmonieuses, mais capable de performer en dehors des salles de musculation. Quitte à avoir un physique musclé, autant pouvoir s'en servir pour effectuer des figures et épater tes amis. Il va dès lors falloir convaincre ton cerveau que la souffrance est amie, car plus la souffrance est présente, plus tu gravis les échelons. N'oublie pas que les athlètes de la Grèce antique servaient de modèle pour les statues classiques de l'époque. Tu as déjà vu des corps sculptés ? Comment ne pas être envieuse ?
Sonia me fait un clin d'œil en guise de au revoir, puis saute du toit pour retomber pile sur son scooter. Maintenant qu'elle s'est rendue à tous les cours, elle a suffisamment de points pour qu'il devienne volant. Je la regarde disparaître dans l'arc-en-ciel, puis j'attrape maladroitement une liane qui pendouille le long du mur et je me laisse glisser jusqu'au sol en essayant de me donner des allures héroïques au cas où quelqu'un me remarque. J'aperçois le premier chantier. Il s'agit d'un fort. Le premier niveau est déjà bâti et enveloppé d'un immense panneau publicitaire. Dessus, le projet est clair. Un agenda des chantiers jusqu'à 2037 rassure le voisinage. Sur la deuxième moitié de la base, on découvre une inscription.
Un avenir pour tous.
Juste à côté de la photo immense d'une femme blonde et heureuse, le regard perdu dans les cieux. Un ouvrier à la peau rouge attend patiemment la grue. Vu d'ici, on a l'impression que la femme du futur le regarde et lui sourit. Je prends une photo pour un Brix, mais je me fais remarquer par le chef du chantier qui me jette un regard et la phrase
« 19 mètres plus haut ».
Je la note et je sors mon translateur. Grâce à mes poings, je me transforme en plaque de béton. L'ouvrier à la peau rouge me soulève et m'accroche à la grue qui me balance comme prévu au milieu de la cité Gagarine où j'arrive à reprendre ma peau normale juste avant de me casser en 1000 morceaux. Je traverse la cité en rampant au sol. qui est liquide par endroits. Heureusement, je suis en régime et j'arrive à flotter. Avec cette surface mixte, la cité scintille. Au milieu, un trou immense est entouré de haies rouges pour cacher un autre chantier encore. Je scrute les panneaux sur les haies pour trouver des indices. Une sculpture en forme de fusée est prévue dès l'année prochaine pour développer le pôle art et culture. Il s'agit d'une photo d'archive d'un homme avec un casque d'aviateur à côté de l'inscription.
Mais qui est Youri Gagarine ?
Sur les panneaux publicitaires, des photos gigantesques nous dévoilent des créatures heureuses, toutes d'une race humaine et optimisée, qui se promènent dans une cité en 3D. Ils sourient, leurs dents sont blanches.
Je dois transformer mon corps car j'ai une cabane à construire. Alors j'opte pour cette forme de musculation, pratiquée dans les prisons et appelée
« workout »,
parfois précédée de
« street »
ou encore
« ghetto »,
qui équivaut à « travailler dehors pour faire des exercices ». Lorsque les jeunes de quartier
a complété.
Ont commencé à utiliser le mobilier urbain, c'était pour travailler dehors, c'était pour faire des exercices. C'est parce qu'ils en avaient besoin.
Béton.
Acier. Maintenant, tu vas travailler à partir du poids de ton corps pour te réapproprier l'espace. C'est un sport de terrain. Il est désormais possible de faire l'acquisition d'éléments pouvant contenir la force, pouvant la développer. Des espaces ouverts et des espaces fermés. Des enclos sécurisés. Des barrières pour délimiter les rectangles, pour épouser ton suite, pour t'étirer.
Contraction excentrique puis isométrique.
Les muscles, ça respire.
Allongement global et long.
Tu dois rechercher une amplitude importante.
Flexion, extension.
En fonction de l'excitation nerveuse du corps, tu es plus ou moins contracté. C'est psychologique et musculaire. Cette forme de musculation originaire des États-Unis est née dans des contextes urbains défavorisés, parce que c'est un sport qui se pratique en extérieur.
Parce que c'est gratuit.
Nous dirons pour balayer, puisqu'elle est arrivée jusqu'ici, toutes les connotations négatives et tous les stéréotypes de la discipline précisée.
Pauvreté, captivité, rejet.
Il s'agit maintenant de construire de nouveaux espaces dans les quartiers
dits.
Nous dirons une discipline urbaine
dit
sensible. Nous dirons que c'est un sport en plein essor.
Que c'est un sport difficile.
Nous dirons dans son autre appellation que cette forme a été inventée pour les filles par l'exclusion à la base des exercices violents de la gymnastique.
Pour la rendre aux garçons.
Il s'agit ici de travailler équilibre, force, flexibilité, agilité et coordination. C'est-à-dire, pour faire travailler ton corps en extérieur, il faut que tu le mettes dehors. Travailler tout ton corps dans des entraînements full body.
La souffrance devrait être ton amie.
Ça non plus, Virginie, elle ne me l'a pas dit.
J'arrive enfin chez Ambrix. Elle se jette sur moi et commence à m'embrasser. Je me demande si je suis censée coucher avec elle pour obtenir sa réponse et la carte. Dans le doute, je déboutonne ma veste. Mais finalement, ce n'est pas la peine, car elle me dit que je n'ai plus beaucoup de temps. Les machines ont entamé la destruction. Je demande où sont passés mes alliés qui devaient arrêter les machines, mais Ambrix m'apprend qu'ils ont été tous neutralisés à coups de spaceball. Ma gorge se serre, mais ce n'est vraiment pas le moment. Une fois en bas, je cours tout en boutonnant ma veste. Je n'ai plus beaucoup de points, mais je me transforme en plaque de béton. On m'accroche à une grue qui tourne en direction de la forêt. Je saute en visant les ronces.
Pas très confort, mais dense, donc protectrice.
Hélas, je n'ai plus de points et je reste en plaque de béton jusqu'à la fin de la mission. Ma chute est amortie par un lapin qui, de toute évidence, se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est là que je remarque que j'arrive trop tard. Les 40 000 m² d'arbres matures et toutes les espèces rares vivant ici depuis des décennies sont déracinées et gisent tristement dans les fossés. Le lapin que j'ai écrasé était le dernier survivant de la forêt. C'est là qu'une immense grue s'effondre sur moi. Je suis en miettes qui s'enfonce dans la terre humide, le lapin avec. Au-dessus du chantier, un panneau publicitaire vole dans les cieux, accroché à un dirigeable.
Le calme et la tranquillité à seulement 1,8 km de Paris.
Souvenir sourire d'une madame Nicole. Un stit qui pensait qu'un bounoule n'était pas fait pour l'école. Je portais un velours troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies baskets. Le coiffeur ne savait même pas encore que j'existais. Mais sois sûr que le premier qui nous a vus s'est désisté. Pourtant jeune et innocent, la mort volée s'enclinait. On squatte le bac à sable avec son sable et nos idées, afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, donc on erre sans avoir. D'après nos voisins, de gros racistes, je le précise, nous étions mal élevés, leur berger allemand mieux dressé. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'y ai jamais cru, car parental est le seul amour que j'ai jamais eu. Donc pour pas se vénère, s'y met à l'amende, les vertus du nerne, donc du thé à la menthe.
Bidonville, ambiance clandestine dans un bar à Barbès. Et à la menthe, couscous et tagine à la carte. Plus de scopitone pour Mouloud et Saïd Abdallah. Avec un sale accent, pas de salam alek. Me dit Hassan l'athlète, originaire d'Algérie, d'Hollywood à Tamanrasset. Plus de thé à la menthe, juste des palabres amères. Comme un malade mental, j'ai mal à la tête. Je cavale en Stan Smith, Adidas, jean 501, sauvagement tape. Ici c'est v'là la dentale. Pour quelques douces de plus, y'a des carnages dans l'air. Cette France me désintègre, on classe ça rappe comme un barbare bancal. Nique la culture du barbecue, du steak et des fast food au bled. C'est la djellaba et les sandales d'Oujda à Casablanca. C'est banal en bas de la tête, je m'emmerde et je pèse que dalle. Ça se bat la frambade, mon rôle, ma peine et ma joie se confondent. Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel. De notre héritage culturel.
Essence, Nastase et 500, un pento, cassette de fond, quel daron, 505, mais 20 le mot, problème avec un grand P, face auquel tout le monde a tremblé ou rampé. Après l'innocence, le pessimisme s'est ancré, devant l'incandescence, le droit chemin s'est cambré. Je lui ai tendu la main et le bonheur m'a crampé. Genre, seul l'argent et l'honneur peut me rendre vrai. Mais ici, on peut t'accuser de choses que si t'avais fait, tu te pendrais. Il leur faut un arabe, un noir, ce que tu veux, bref, du concret. On a eu la chance de ne jamais se prendre au sérieux, côtoyer le vice sans jamais faire le saut périlleux. Modelant, notre vie loin du saut de l'ange. À l'école, nouveau tour contre l'albatros de Beauterre. On s'est retrouvé dans le rap, contre toute réelle attente. La recette sans pleurs, stylo était à la menthe.
Alors Mélanie, tu l'as dit dans ton texte, tu as parlé de la caution, alors on vient de l'entendre, et c'était le titre « Thé à la menthe ». De retour dans l'émission Plateau du Tout-Monde sur R22, en direct sur R22.fr et en public ici au Lila. Premier entretien de l'émission avec toujours pour cadre la forêt de la Corniche des Forts à Romainville. Frédéric, c'est à toi de conduire l'entretien avec les deux lectrices, Mélanie et Elitsa, que l'on remercie vraiment vivement pour cette lecture performance.
Bonsoir Mélanie, bonsoir Elitsa. Mélanie Yvon, tu es artiste et autrice. Elitsa Georgieva, tu es cinéaste, performeuse et autrice, et vous venez de lire un texte que vous avez écrit lors de votre résidence, porté par R22 et par le département de Seine-Saint-Denis. Un texte qui s'appelle « Le Grand Paris » par Epic Games, qui est paru dans la revue en ligne AOC, qui veut dire « Analyse, opinion, critique », qui est une revue qui mêle science humaine, sciences sociales et littérature. Ma première question, c'est qu'est-ce que c'est Epic Games ?
Ben, en fait, dans l'écriture du texte, on s'est inspiré de l'univers de Fortnite, parce que on en a toutes les deux pas mal entendu parler, parce qu'on a fait des ateliers avec des adolescents.
Qui, au lieu d'écrire sur nos contraintes et exercices, jouaient à Fortnite. Donc on s'est dit qu'il faut peut-être pouvoir aussi parler à des jeunes, ou en tout cas aux gens qui jouent ça. Donc il y a des private jokes qui sont adressés plutôt aux joueurs de Fortnite, il faut l'avouer.
Mais au-delà de Fortnite, il y a aussi une métaphore par rapport à ce que vous décrivez. Vous êtes, votre travail s'inscrit sur un territoire particulier. Et donc, comment vous avez appréhendé ce territoire et qu'est-ce qui, à un moment donné, a donné ce passage entre Fortnite et ce que vous avez trouvé sur le territoire?
Parce qu'on y a vu des similitudes dans le fait de construire, de démolir et de ce qui se passe dans un jeu vidéo. C'est pas des fois si loin de ce qui se passe dans la réalité. Du coup, il y avait cette idée-là d'avoir des missions à accomplir et du coup d'avoir des transformations comme ça.
C'est vrai qu'on est arrivé un petit peu sur ce terrain, un peu comme, enfin pas du tout comme dans un jeu, mais il faut peut-être dire que ce texte, il est aussi une étape dans notre résidence d'écriture qu'on fait auprès du département et avec R22. Et en fait, en effet, on devait écrire sur les transformations urbaines, sur le prolongement du tramway T1, mais le chantier, il se trouve que le chantier a été repoussé pour dans un an éventuellement. Donc nous, les premières semaines, enfin, il faut dire qu'on n'est pas du quartier, donc on est venu d'abord on s'est dit qu'on allait d'abord explorer de manière géographique et physique le quartier, on va dire. Donc on s'est fait une petite semaine.
Le quartier, plus que le quartier, parce que du coup, c'est vrai qu'on a fait toutes les villes qui sont concernées par l'arrivée du T1, même si c'est pas actuel. Du coup, c'est quand même ce qui est prévu et qui va de Noisy, qui devrait aller de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay. Donc, c'est quand même un territoire assez.
C'est assez vaste. Mmh. Oui.
Et parfois, c'était assez clair. On va passer le tramway. Parfois, c'était pas clair du tout. Donc, il fallait faire preuve
d'imagination. On a essayé de suivre la ligne.
On a essayé de deviner. Et donc, on a aussi pas mal filmé, pris des photos, des notes, etc. Et...
Oui, c'était ma question aussi. Alors, comment on travaille quand on prend des notes, on filme, on prend des photos, et ensuite, comment on transforme ces documents en fiction? Parce que c'est bien comme ça que c'est bien une fiction.
Oui, je pense qu'on travaille comme quand on va sur le terrain, on va essayer de se documenter, de prendre des notes, tout ça. Après, je pense qu'on a eu des périodes d'écriture indépendamment l'une de l'autre, et qui se nourrissent aussi ces écritures à la fois de notre travail en général, à la fois de ce qui est en train d'arriver. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à écrire, il y avait tous les mouvements contre le chantier, par rapport à la forêt de Romainville. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu pris en compte ce qui est en train d'arriver, d'autant que j'avais un ami qui m'a parlé de cette forêt que je ne connaissais pas, et au départ, je l'avais vu que sur Google Maps. Donc, c'était un truc un peu mystérieux comme ça, et tout à fait, qui se voyait bien sur la carte. Donc, ça m'avait beaucoup marqué. Et donc, après, c'est vrai que j'ai fait ce travail d'y aller plusieurs fois, d'y retourner. Et donc, très vite, j'ai décidé de travailler sur ça, d'autant que ça touche aussi la cité Gagarine. Et ça, dès le départ, ça avait attiré mon attention, puisqu'il se trouve que j'ai pas mal travaillé sur Yuri Gagarine, le vrai. Mais donc, forcément, j'avais envie de connecter ces éléments.
Et c'est vrai qu'on est arrivés toutes les deux avec soit des envies qui se sont dessinées aussi dans la phase exploratoire, ou soit déjà avec des envies particulières de travail. Moi, je sais que j'avais déjà entamé en fait des recherches sur les espaces sportifs et notamment sur les aires de street workout qui fleurissent un peu partout, et aussi, enfin, particulièrement dans le 93, dans les territoires. Donc on a fait une phase d'exploration ensemble, où du coup on est allé aussi dans les endroits qui nous intéressait toutes les deux. Et puis après, on a continué en parallèle des recherches. Et
on a rencontré aussi des habitants, même si on n'a pas eu le temps de voir beaucoup de personnes. Mais il y a certains des discours directs sont des réécritures de témoignages aussi.
Oui, c'était une question que je voulais vous poser, effectivement, on entend.
Désolée, j'ai répondu après.
Ben oui, non, mais c'est pas grave. La suite, c'est un travail en cours. Comment vous imaginez la suite de ce travail, de ce texte, là déjà que vous avez partiellement réécrit par rapport à celui pour la lecture, en tout cas. Mmh. Il me semble qu'il y a des choses qui ont changé, des passages qui ont été enlevés. Et comment vous imaginez la suite de cette résidence et ce que vous allez produire ensuite?
C'est vrai que c'est une écriture qui s'adapte au dispositif. Au départ, on avait accepté, enfin, le projet de départ, c'était de faire des publications radio. Donc, on n'avait pas spécialement des contraintes, enfin, de public, enfin, pas des contraintes, mais de publication écrite, en tout cas. Je pense que pour la suite, on va modifier ça, puisque tout est en train de se modifier, en fait. Et ça va être, à mon avis, un dialogue et un regard sur plusieurs, enfin, dans un temps beaucoup plus large. Mmh. Voilà, comme la résidence a subi quelques changements au niveau des délais. Enfin, donc, en fait, on a commencé plus tard et on va sans doute un petit peu les prolonger. En dialoguant avec d'autres personnes, et je pense que ce plateau, c'est l'une des, enfin, c'est l'un des points de départ aussi pour rencontrer des personnes, se nourrir et continuer ainsi de suite, enfin, dans l'échange, quoi.
Comment on fait pour se transformer en béton?
Ça, je sais pas.
J'aimerais bien me transformer en béton, parfois.
C'est en faisant du workout ou alors
en s'entraînant beaucoup.
Oui, ou alors en faisant un grand effort d'imagination.
Est-ce que vous avez perçu, il y a plusieurs métaphores, il y a celle du jeu, mais il y a aussi ce corps qui devient bitume, béton, qui va se mêler avec la terre en écrasant le lapin et en se mêlant lui-même au lapin. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu, cette espèce de le territoire panique que vous avez visité, c'est contaminé à vos propres corps?
En tout cas, enfin, moi je pense que cette idée d'écrire comme un scénario de jeu, ça nous a beaucoup libérés aussi. Donc forcément, c'est quelque chose qui est assez dystopique et fantaisiste, voire c'est un univers fantastique. Et ça a permis, en fait, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de libérer aussi quelque chose par rapport à... Enfin, je n'avais pas envie non plus d'entrer dans un discours, même si j'ai tout à fait mon opinion sur la question, mais c'était aussi l'idée d'amener quelque chose de très narratif et un petit peu absurde comme ça, qui moi m'a beaucoup plu, tout en racontant un peu, enfin en rendant compte de loin d'une réalité, enfin, puisque c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, il y avait tous les mouvements et moi je sentais quelque chose d'assez fort au niveau de l'implication des gens qui étaient autour et j'ai été assez touchée par ça.
Moi, la question des corps dans le texte, si c'est aussi présent, c'est parce que ça fait aussi partie des choses qui m'intéressent et de la manière dont l'architecture, elle peut aussi contrôler des corps, comment le sport, ça peut aussi... Enfin, toutes ces mutations dans le territoire, c'est aussi des choses qui s'appliquent à la manière de contenir des corps et de faire en sorte qu'ils se transforment et de gérer... Ouais, c'est pas non plus anodin les espaces où sont implantés les aires de street workout et du coup ça fait partie des questions qui m'intéressent aussi. Donc comment avec le sport on peut contenir certaines choses en fait qu'on n'arrive pas à contenir autrement.
Alors c'est très rhapsodique votre forme d'écriture, c'est plein de fragments à la lecture sur le papier, enfin sur l'impression, on a plusieurs morceaux qui ont l'air de s'emboîter, de se déboîter. Comment vous avez pensé l'ensemble du travail d'écriture, du coup ?
Mais en fait, on a quand même écrit chacune de notre côté. Après, on s'est envoyé les choses. On a essayé de construire avec ça, en essayant d'axer sur certains points. Et après, de faire une sorte de montage et de réécrire à partir de ça, quand on pouvait trouver des parallèles.
Et on a pas mal réécrit sur... Moi, je me rappelle que tu m'as envoyé une première version. Du coup, j'ai pas mal changé mon texte aussi pour pouvoir le rendre cohérent.
On s'est adapté.
Donc, on s'est quand même beaucoup échangé des extraits. Et après, je pense que l'écriture fragmentaire est quelque chose qu'on pratique de manière générale. Là, moi, dans mon texte, c'est moins fragmentaire qu'habituellement. Mais forcément, on avait cette envie de faire un montage et d'avoir différents matériaux et éléments, en fait... Parce que c'est aussi assez difficile de faire une lecture de 30 minutes quand un texte n'est pas forcément oral. Enfin, donc il faut aussi travailler ça. Donc là, je pense qu'on a aussi travaillé les différents registres de paroles, quoi, de discours.
Oui, on avait plus de liberté pour la forme orale que pour la forme écrite, où du coup, on a fait en sorte que ça soit quand même, qu'il y ait des fils narratifs aussi qui soient plus présents que dans la lecture où on ne pouvait plus jouer sur des questions de rythme ou de fragments de montage.
On pense à Kafka quand on entend votre texte. Quelles sont les références, les textes qui ont un peu habité votre travail d'écriture?
Merci beaucoup pour Kafka. Moi, franchement, je n'ai pas vraiment pensé. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le texte puisque j'ai suivi un peu aussi la proposition de Mélanie qui était d'imaginer plutôt les choses d'une manière un peu absurde. Ce n'est pas spécialement dans un style que j'ai déjà écrit. Enfin, après, il y a des choses que j'ai repris, mais enfin, voilà. Moi, j'ai plus pensé à Damasio, même si je n'ai pas spécialement, je suis pas spécialement une très grande lectrice, mais j'apprécie beaucoup sa démarche en général. Et donc, enfin, voilà. Mais je pense pas, je pourrais pas le citer comme une influence, mais en tout cas, après coup, je peux penser à ça comme un parallèle un peu littéraire, quoi.
Moi, j'ai pas forcément de référence en particulier pour l'écriture de ce texte. C'est qu'il y a dans tous les cas un travail de montage, en fait, où j'ai l'habitude de travailler aussi à partir de documents, de garder des choses brutes, de réécrire certaines choses et de tisser des choses, tisser une narration, mais qui se fait avec le principe du montage. Donc, voilà, je sais pas, peut-être plus proche de l'écriture théâtrale ou de quelque chose de plus objectiviste.
Merci beaucoup, Frédéric, pour cet entretien. Elitsa, vous avez parlé de Yuri Gagarin, le vrai, comme vous avez dit. Enfin, comme tu as dit, il y a eu une publication, c'est ça ? Tu as publié quelque chose sur Yuri Gagarin, le cosmonaute soviétique, enfin, le vrai.
Oui, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Les cosmonautes ne font que passer » et qui est aussi très fantaisiste. Enfin, ça ne parle pas vraiment du vrai Yuri Gagarin, mais plutôt d'une petite fille qui souhaite devenir Yuri Gagarin.
Merci à toutes les deux en tout cas. Merci. Toujours en direct, toujours au Lila, toujours sur R22 dans l'émission Plateau du Tout Monde. Deuxième partie de l'émission avec une autre série d'entretiens. Trois invités, Sylvain, Mohamed et Julie. Qui vont être présentés plus en détail avec comme cadre toujours cette balade que tu nous avais offert, Simon, à Romainville. Il s'agissait de cette balade de la semaine où on avait pu voir les conséquences de cet aménagement du territoire.
Du coup, pour continuer d'arpenter Romainville, qui fait partie d'un ensemble d'aménagements urbains en fait, qui font partie du Grand Paris, qui pour information est le plus grand projet urbain en Europe. Et Romainville, c'est le plus, en tout cas le projet de la Corniche des Forts, le plus gros projet de rénovation urbaine du 93. Alors avec nous pour en discuter, Sylvain Piron, qui est historien et militant engagé, qui a mené une documentation assez précise du projet et de l'histoire des carrières de Romainville, dont on va venir en détail. Mohamed Bougamni, qui fait partie du DAL, droit au logement et de Romainville et de l'association, enfin de Spouting de Romainville, et Julie Lefebvre de l'association Patrimoine et Environnement, vice-présidente. Pour commencer, Sylvain va nous redonner un peu un contexte. Et voilà, Sylvain.
Merci. Merci de l'invitation et de l'occasion qu'on a de présenter cette histoire et cette lutte qui n'est pas finie. Donc Romainville, c'est ici, on est à moins d'un kilomètre 8, c'est sur le même plateau. On est à la radio, donc juste imaginez qu'on est surtout sur le même plateau qui s'étend d'un côté vers Paris, c'est le plateau de la colline de Belleville, Ménilmontant, et qui de l'autre côté se poursuit, on n'a pas forcément, on visualise pas bien, tout le haut de Montreuil jusqu'à Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne. C'est une longue colline qui est formée de différentes strates. Et il faut imaginer sous nos pieds ici une sorte de lasagne faite de couches de gypse, c'est-à-dire de sulfate de calcium, et de marnes argileuses qui se sont formées. Donc, je suis historien, je remonte un peu en arrière, il y a 50, 70 millions d'années. On avait une grande lagune qui, à tour de rôle, était donc de l'eau salée avec du sel qui se déposait, ce qui est le gypse, puis des invasions marines qui ont amené des sédiments, donc les couches de marnes. C'est ce qui a fait cette richesse, donc une lentille longue de 150 km avec le gypse le plus pur au monde. C'est une des grandes fiertés de la région parisienne, avec une pureté de 99% parfois, donc un beau plâtre blanc, qui a été, alors la colline s'est formée avec la Marne qui est passée au nord, au sud, qui a un peu sculpté le territoire. Donc on parle d'une butte témoin, mais Montmartre c'est aussi une butte témoin de la même construction, qui est le plateau de l'Abri. Et dans cette, donc sur les flancs de la colline, on a vu très vite apparaître le gypse qui a été exploité depuis le Moyen Âge. On a des traces de carrières du XIIe siècle à Chelles, puis à Paris, surtout Montmartre, Belleville ont été sur le flanc de la colline exploités. Ça s'est développé beaucoup quand Louis XIV a décidé d'obliger les Parisiens à plâtrer leurs maisons pour éviter un grand incendie comme celui de Londres, d'où le grand développement du plâtre de Paris à cette époque-là. Puis après, les buttes de Chaumont, c'est un reste de cette exploitation de gypse. Et c'est au XIXe siècle, donc même s'il y a des traces beaucoup plus anciennes, le Trou Vassou, qui est un lieu dit à Romainville, c'est la trace d'une très vieille carrière, au moins du XVIIe siècle. Et c'est au XIXe où l'exploitation était industrielle. Et comme souvent, ici, on est dans ce qui reste d'un ancien domaine, qui est le château des Bruyères, au Lila. Il y avait un autre château à Romainville qui a été habité jusqu'au XIXe siècle, qui a été vendu à un exploitant, puis, racheté par quelqu'un qui s'appelait Gauvin, qui a construit, qui a vraiment fait l'exploitation industrielle à partir des années 1860. Et c'est le même propriétaire qui a exploité petit à petit toute la colline, donc qui a été rasée, le gypse dans les couches supérieures ont été exploitées à ciel ouvert, en dessous par des galeries, et l'exploitation a duré jusqu'aux années 60 avec une usine sur place qui produisait du plâtre. L'avantage étant qu'on a le canal de l'Ourcq juste en dessous, donc ça facilitait l'exploitation et l'exportation un peu partout. Mais la carrière, les parties basses ont été exploitées, a servi des années 40 de dépotoir, donc c'est aussi un gigantesque dépotoir. On soupçonne notamment Roussel-Uclave, qui est installé juste en dessous, d'y avoir mis des déchets pharmaceutiques avec des résidus de strontium, qui est un produit nucléaire. Il y a des éléments assez intéressants. Donc c'est une zone très très bizarre où les galeries ont été comblées et à mesure que l'exploitation était arrêtée, les arbres ont poussé. Donc une partie près du cimetière a été boisée assez précocement. Puis l'ensemble, c'est une fois que l'exploitation a été abandonnée en 65 et que l'usine a été fermée, la zone est restée en friche pendant quelques années avec cette idée d'en faire quelque chose. Donc il y a des fantasmes différents qui ont existé depuis très longtemps. Mais le vrai projet a commencé à partir de 92, quand un projet immobilier a été bloqué par la mairie de Romainville. Le maire communiste de l'époque a bloqué le projet et est venu l'idée de préserver un espace, d'en faire quelque chose. D'où a germé l'idée d'en faire une base de loisirs, qui est une idée très étrange. Les bases de loisirs, c'est d'habitude des choses qui sont autour d'un plan d'eau, avec des activités nautiques, payante, l'accès gratuit, mais activité payante pour avoir un fonctionnement autonome. Ici, il n'y a pas de plan d'eau. Alors là, l'idée était de faire une base de loisirs très proche des habitants, donc dans une zone dense, comme à Créteil. Une étude préliminaire en 98 de l'Institut d'urbanisme d'Île-de-France a dit des trois sites proposés, c'était aucun n'était satisfaisant, Romainville étant le moins pire. Donc c'est à ce titre-là qu'on a lancé ce grand projet avec un concours d'architecture en 2001-2002. C'est le seul moment de toute l'histoire où il y a eu une concertation. Et on a j'ai retrouvé des documents, des traces de réunions associative avec 60-30 personnes dans la salle, et tout le monde, l'avis majoritaire était pour préserver le plus possible la forêt. C'était ça l'argument, c'est un projet qui s'appelait la forêt ombreuse, qui a été plébiscité par les participants de la concertation, projet qui n'a pas été retenu. À la place, a été retenu un projet qui prévoyait de tout détruire. Alors, on n'a pas les dessous, mais c'est probablement... C'est le projet qui coûtait le plus cher, donc qui a été retenu. Certainement, je pense que c'est un des éléments de l'équation, qui prévoyait de remodeler complètement le territoire. Donc c'était travailler toute la corniche. Donc ça commence ici au Lila, ou à Pantin en bas, et ça va jusqu'à Noisy-le-Sec. Donc tout le flanc de la colline retravaillé en détruisant toute la végétation. Et ce projet un peu délirant a été accepté, mais... La difficulté à acquérir les terrains a fait qu'on a pu accéder seulement en 2008 au terrain. Et c'est à ce moment-là, premières études du sol, et on a découvert que le sol était extrêmement pollué. Donc le projet de départ, en remodelant l'ensemble du territoire, du terrain avec les matériaux, a été abandonné, sous la pression aussi d'élus locaux écologistes qui ont conduit un réaménagement. Mais c'est la même entreprise, le même ILEX qui avait le projet de départ, qui a toujours le contrat, avec toujours ces idées un peu absurdes de tout chambouler et de mettre des passerelles. Ils veulent faire une grande passerelle qui rappelle la passerelle des buts de Chaumont. Les architectes aiment bien faire des gestes, donc on a une passerelle qui ressemblerait à celle des buts de Chaumont. Maintenant, elle est dans la forêt, elle ne sert plus à rien, mais elle est toujours là. Elle coûte 300 000 euros et ils veulent toujours la faire. Donc c'est toujours le même projet qui a été un peu remodelé. Bartolone qui habite ici, au Lila, se voyait, excuse-moi, on fait un peu de politique, mais on doit en faire, Bartolone est retiré maintenant, c'est la prescription, Bartolone se voyait président de la région et aurait bien voulu inaugurer chez lui un gros beau projet, et ça correspondait avec les débuts des travaux d'ouverture, de prolongement de la ligne 11 du métro, donc, et c'est effectivement le moment du boom immobilier à Romainville en 2015, et c'est Bartolone s'y voyait, sauf qu'il a perdu les élections, et ce qui est assez amusant, ça a été très tendu entre Bartolone et Pécresse, et Pécresse a repris littéralement, sans rien y changer, le projet de Bartolone, qui est destiné très largement à valoriser les constructions. On a entendu parler de Villa Natura, mais c'est vraiment ça. Villa Natura, c'est Next City. Next City, quand Bartolone a quitté la présidence de l'Assemblée nationale, son directeur de cabinet a été embauché comme directeur du nouveau paysage urbain chez Next City. Et l'aménagement qui est conservé, donc c'est plus une destruction de l'ensemble de la forêt, c'est simplement une partie, 8 hectares sur les 27, qui est destiné à mettre en valeur, à consolider, parce que Villa Natura est vraiment à la pique sur ce qui était le front de taille, donc c'est consolidé en dessous en comblant les galeries, et ouvrir le panorama, le paysage, le nouveau paysage urbain pour les nouvelles constructions, Villa Natura et la cité Gagarine qui est juste au-dessus et qui est destinée elle aussi à être détruite. Donc il y a un ensemble d'aménagements qui inclut vraiment la forêt et la cité. Donc c'est pour ça qu'on est très content d'être tous les trois ensemble pour en parler.
Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation de 80 000 ans d'histoire en moins de 5 minutes. En tout cas, c'était très clair pour poser les bases. On vous propose, pour introduire l'ultra-contemporain, le quotidien, de vous faire entendre une petite balade sonore qui avait été enregistrée par Frédéric, justement sur le site qui vient d'être détaillé par Sylvain Piron. De retour sur le plateau de l'émission, on est loin de la promenade bucolique en forêt. Simon ?
Voilà, autour de ce projet, du coup, il y a un ensemble de mobilisations pour défendre la forêt et aussi la cité Gagarine et aussi, en fait, plus largement, l'infrastructure à Romainville. Et pour nous, c'était important aussi de faire ce plateau aussi pour souligner qu'on ne peut pas séparer, en fait, des luttes écologiques, des luttes sociales ou d'urbanisation, etc. quoi, et que si on veut aborder ces sujets, on ne peut pas faire l'économie comme ça d'un territoire particulier ou d'une situation particulière. Et du coup, Julie, est-ce que tu peux revenir un peu sur l'ensemble des mobilisations, la manière dont tu étais impliquée, les alliances aussi qui sont entre les différentes associations à Romainville qui ont eu lieu, etc.
Alors avant de revenir sur cette histoire plus récente, je voulais vous rappeler aussi les trésors qu'abrite ce site. Donc cette forêt, c'est 27 hectares, il y avait des renards, des hérissons, des écureuils, des lézards des murailles, des orvets, des fouines, des piques et pêches, des éperviers, etc. Donc aussi au niveau végétal, il y avait toute une collection de lianes, de clématites, donc on était vraiment dans un paysage de jungle dans lequel on pénétrait un peu tel Alice au Pays des Merveilles. Mais là, c'était une métaphore employée par des étudiants qui ont travaillé sur ce site, et on arrivait vraiment dans un paysage de jungle avec un grand calme qui contrastait avec tous les bruits qu'on a pu entendre. Donc moi, j'ai découvert ce site en 2012, à la faveur d'une balade qui était organisée avec plusieurs associatifs, avec des membres d'Europe Écologie, avec un ornithologue, David Bismuth, qui est le premier à alerter sur le devenir de cette forêt. Il faut savoir qu'en 2011 déjà, il y avait eu une pétition de David Bismuth et de l'ANCA pour alerter sur ce trésor que représentait cette forêt à 2 km de Paris. Il y a vraiment un trésor botanique et ornitho très très important. Donc ça a tout de suite été un combat collectif avec plusieurs associations, des associations de préservation du patrimoine et plus environnementales. Et voilà, on a cherché toute une première phase à avoir des informations 2012-2013. C'était un projet assez flou. En 2015, on a été tous conviés enfin à une réunion à la mairie de Romainville qui s'est écourtée alors qu'on était de très nombreux participants par une alarme incendie. Donc voilà, la partie a été remise. Et c'est ensuite... Il y a eu vraiment 2 ans de silence entre 2015 et 2017, et c'est vraiment des phases dangereuses pour la vigilance associative et citoyenne, puisque vous n'avez aucune info pour rebondir, les interlocuteurs changent aussi bien à la région que d'un point de vue associatif. Il y avait Benjamin Simonet qui s'était vraiment engagé, qui coordonnait un peu tout le monde, qui est parti dans le sud, donc avec lui sont partis aussi pas mal d'informations. Donc moi, je travaille dans le domaine du paysage depuis 15 ans. Donc à la rentrée 2017, en fait, à force de parler de ce site qui me semblait exceptionnel, on a réussi à travailler avec les étudiants de l'école spéciale d'architecture. Donc ils sont venus, ils ont fait beaucoup de repérages sur le terrain, ils sont allés voir les habitants de Gagarine et ils ont travaillé pendant 2 semestres. Et pour eux, ils ont vraiment considéré cette forêt comme un trésor. C'était aucunement question dans leur projet d'abattre des arbres. Et aussi, ils ont souligné ce qui était assez important, c'était aussi la richesse de ces carrières en termes de biodiversité, mais en termes d'espace. Ils parlaient vraiment de cathédrales souterraines. Et ils ont proposé pendant 2 semestres des micro-architectures, des belvédères, des choses autour de la faune et de la flore, aussi des liaisons urbaines, puisque en fait, ce type de projet paysager doit aussi servir à relier la ville. Et en fait, Romainville est vraiment séparée entre le haut et le bas pays. Donc ça a été vraiment très prolifique pour le jury du premier semestre. En fait, voilà, on n'avait aucune information. Donc moi, je me disais qu'il fallait réunir un peu toutes les collectivités qui ont toutes été invitées. Et malheureusement, elles étaient rares à être présentes. En fait, bon, il y avait quand même la métropole du Grand Paris et le syndicat mixte. Et à partir de janvier 2018, on a été conviés à quelques associations à découvrir le projet final, la Dilex, donc sur 8 hectares. Et à ce moment-là, on a émis des observations, mais il nous a été dit que c'était plus du tout le moment de faire de la programmation. Donc à aucun moment, les habitants n'ont été associés, sauf il y a très très longtemps, on l'a compris, au début des années 2000. Mais voilà, en 2018, sur ce projet... Les habitants n'étaient pas associés, les associations ont été conviées, mais n'ont pas été conviées à travailler sur le projet. Et tout ce qu'elles ont pu faire comme observation sur la pauvreté des usages, on nous proposait un solarium, un poney club, qui ne sera même pas édifié. En fait, il y a un financement pour raccorder au réseau, mais il n'y a pas de poney club. De l'éco-pâturage pour soi-disant contenir la renouée du Japon. En fait, voilà, il y a aussi tout ce vocabulaire de la peur autour de cette forêt qui menace de s'effondrer. Alors c'est vrai, hein, le sol est instable sur ces plantes invasives, etc., qui nécessiteraient à tout prix d'aménager. Alors qu'autour, il y a des parcs qui sont laissés à l'abandon depuis des années, malgré 38 millions de budget injectés dans tout ce projet depuis les années 2000. Donc tout ce vocabulaire de la peur, à éloigner aussi, je dirais, les habitants de cette forêt, puisqu'ils ne la connaissaient pas, elle était aussi un peu considérée comme une décharge, et sauf ceux qui ont pu y pénétrer ont pu en comprendre la valeur. Donc après, il y a eu une grosse enquête dans Télérama, il y a un hors-série sur les forêts qui a permis de valider scientifiquement en fait aussi, aussi la valeur de cette forêt. On avait fait auparavant venir Gilles Clément. Voilà, et voilà, malgré toutes ces alertes, à aucun moment il a été possible de dialoguer réellement. Donc après, moi j'ai mobilisé mon réseau pour écrire une tribune dans Libération, qui est paru le 3 juillet, le jour de l'annonce du plan de la biodiversité, puisque c'est un projet qui avance à contre-courant de toutes les alertes qu'on a en ce moment sur le climat, sur l'importance des nappes phréatiques, sur la biodiversité. Et voilà, donc juillet, toujours aucune réponse. Au mois d'août, Sylvain Piron est venu me trouver pour qu'on transforme cette tribune en pétition et qu'on lance un mouvement citoyen plus vaste. Donc il a proposé de faire des pique-niques, une chaîne humaine. Donc ça, c'était à la rentrée. Et c'est vrai que dès la rentrée, il y a eu un engouement très fort. Voilà, au début, on était une trentaine, 50, et puis après 300. Et puis vraiment, avec un gros désir de forêt, je pense que pour tout le monde, c'était assez incroyable de découvrir cette forêt à 2 km de Paris. Catherine Ringer, et puis après, ça s'est transformé avec une occupation sur place, hein, avec des gens qui ont essayé de physiquement de bloquer les bulldozers. Mais rien n'y a fait. On a eu une barrière érigée contre cette forêt et les travaux ont repris. Donc c'est 700 arbres qui ont été abattus et cet écosystème, en fait, on sait aujourd'hui qu'un écosystème détruit ne reprendra plus.
Avant d'autres monde, le plateau de tout monde.
Dernier portrait associatif. Simon, avant une discussion croisée pour débattre ensemble.
Du coup, comme tu l'as souligné, Julie, on a un projet qui est fait aussi, un projet de réaménagement qui est fait au nom de l'écologie et notamment un projet de lifting comme ça de la cité Gagarine où ils veulent en faire un éco-quartier, etc. Et du coup, Mohamed, toi qui du coup, est sur le terrain depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous faire un historique, en fait, des plusieurs étapes qu'il y a eu de concertation ou non autour de ce projet et où on en est maintenant voilà.
Oui, tout à fait. Donc, avant tout, je tiens à revenir assez brièvement sur la forêt. J'ai connu la forêt en 1974, le jour où je suis arrivé à Romainville. Donc, ça date. Pour nous, c'était l'effort interdit, on le surnommait. Les frontis, on n'en a pas entendu parler, on a entendu parler uniquement de soi-disant bombardements et qu'il y avait des crevasses et que c'était dangereux d'aller là-bas. Mais malgré tout, bon, étant jeune, on passait malgré tout les grillages. Je vous cache pas qu'il y avait toutes sortes... c'est là-bas qu'on a découvert la faune et la flore, hein, tout ce qui était renards, rongeurs, toutes sortes de volatiles, rouges-gorges, mésanges, rapaces... Il y avait une faune et une flore, mais magnifique, quoi. Plus on avançait dans le temps, et bon, ça commençait à devenir de plus en plus rare du côté des lilas, parce que bon, les forts sont séparés par le parc départemental. D'un côté, il y a un fort qui est situé aux lilas, pas loin du tennis, et de l'autre côté, il y a... la corniche, ce qu'ils appellent maintenant la corniche des forts. Hein. Et là-bas, bon, bah, c'était préservé puisque c'était grillagé. Donc on avait l'occasion, encore il n'y a pas longtemps, de voir des renards la nuit sortir assez tard dans la nuit. On voyait, ça nous est arrivé de voir des hérissons, toutes sortes de rongeurs. Voilà. Bon, hélas, tout ça a disparu. Voilà. On n'a rien fait pour les préserver. Maintenant, pour ce qui est du projet Gagarine. Le projet Gagarine il a été présenté la première fois en juillet 2013. Donc, il y a une présentation publique. De la manière qu'il a été présenté, la majeure partie des locataires, et Dieu sait que la salle des fêtes était comble, était en désaccord total. En désaccord total, ils ont marqué leur opposition à ce projet. Et malgré tout, notre chère maire, Madame Corinne Valls, s'est levée en disant « Si vous voulez pas de ce projet, on le fera pas. » Et voilà, ça c'est. Vous voulez pas de ce projet, on le fera pas. Il faut savoir que la cité Uri-Yagarine a été un grand ensemble totalement délaissé, hein, dans l'espoir que ça vieillisse mal et ça pourrisse bien à leurs yeux pour pouvoir justifier la casse. Hélas, hélas, vu la construction de l'époque, ça n'a pas vieilli de la manière qu'ils escomptaient. Voilà. Donc ça les a énormément dérangés. Au jour d'aujourd'hui, ils invoquent comme quoi qu'il y a eu beaucoup de concertations avec les habitants, ce qui est totalement faux, étant donné que depuis juillet 2013, on n'arrête pas de se battre, on n'arrête pas de solliciter aussi bien au niveau de la municipalité qu'au niveau des représentants de l'État, et on a une fin de non-recevoir en permanence. Et à chaque fois, il y a une nouvelle information qui vient. C'est un projet en rue, le projet a été signé, l'État a donné son accord, c'est une rénovation urbaine. On savait très bien comme quoi que c'était un projet de gentrification, sachant très bien qu'on casse 482 logements et qu'on va en construire 1300. Et sur les 482 logements sociaux, il y en a uniquement 240 qui sont reconstruits et 1000 logements en accession à la propriété. Donc, c'est que pour nous, aux yeux des Romainvillois, locataires de la cité Uri-Yagarine, il fallait tout simplement prévoir un déménagement, tout simplement. Vous n'avez plus lieu d'être sur le quartier. Laissez votre place, étant donné qu'on va faire une promotion immobilière. Sans compter que, partout où vous allez à Romainville, on met en valeur base de loisirs et métro. Voilà. Et ceci depuis des années. Et depuis le début, moi, je sais très bien que la base de loisirs, c'est un panneau publicitaire. Uniquement ce qui est vendeur, qui fera augmenter le prix du mètre carré. Hélas, je ne me suis pas trompé. Hélas. Et au jour d'aujourd'hui, le projet n'est plus subventionné par l'État. Encore tout à l'heure, je vérifiais sur le site de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui, elle, donne des crédits pour la rénovation des quartiers populaires. Et Romainville, cité Uri-Yagarine, ne figure pas, au jour d'aujourd'hui, encore, il y a une heure. Par contre, effectivement, il y a déjà eu une expérience à Cacha, chez nous, une expérience qui a coûté quand même pas loin de 131 millions d'euros, avec une participation de l'ANRU de 32 millions d'euros. Je pense que quand ils ont commencé à plancher sur le résultat final, ils ont dû se dire, il vaut mieux réfléchir à deux fois, parce que là, à mon avis, les financements qu'ils donnent ne profitent pas aux bonnes personnes. Voilà. C'est ce qu'ils ont dû en déduire. C'est pour ça que le projet Gagarine ne sera pas financé par l'ANRU, mais par contre, il sera financé par des promoteurs privés. Et ça, on a confirmation. Donc, on est en droit de soupçonner certaines connivences, étant donné que, apparemment, chez nous, à Romainville, les promoteurs sont rois. Et ça, je suis pas le seul à le dire. Hein. Toutes les portes s'ouvrent. Mais par contre, les Romainvillois n'ont pas leur mot à le dire. On a eu toutes sortes de réunions publiques et à chaque fois, dès qu'on s'opposait à ce projet en tant que Romainvillois et en tant que locataire, vous êtes un opposant politique. Mais opposant politique communale, effectivement, si cette politique communale ne me convient pas, dans ces cas-là, je suis en droit de m'y opposer. Moi, ainsi que pas mal de Romainvillois. Et ça se terminait, comme le décrivait tout à l'heure Julie, ou des alarmes incendies, ou alors des lumières qui s'éteignaient, total, dans la salle pour nous forcer à sortir. Donc, et là, c'est ce qu'on subit, quoi. C'est ce qu'on subit.
Et du coup, Julie, tu parlais de... À un moment, il y a eu un rassemblement de différentes associations. Je crois qu'un truc a été assez fort à Romainville, avec chacune aussi des spécificités, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler, alors tous les trois, peut-être? Comment, à quel moment en fait se sont passées ces alliances et si justement à la fois pour la forêt il y a eu différents secteurs d'expertise quoi et de quelle manière et quand ça s'est croisé quoi et où etc.
Alors en 2012 moi je me suis retrouvée engagée contre une usine de tri mécanobiologique au bas pays où il y avait vraiment des grosses insuffisances sur le dossier, notamment sur les zones de risque, etc. Donc là, on a commencé à travailler avec l'association Arrivem, qui a fait un travail assez extraordinaire. C'était surtout des entrepreneurs du bas pays qui ont fait de la contre-expertise. Donc là, on a commencé à se rassembler en tant qu'association. Et puis, voilà, constatant que chaque association était considérée comme opposante, qu'en gros, tout le monde se prenait un peu des murs. Donc au sein de Patrimoine et Environnement à Romainville, on s'est aussi rassemblés très fortement pour essayer de sauver la seule place publique de la ville, donc la place du marché, qui était elle aussi visée par un gros projet de promoteur avec vraiment une concertation quasi inexistante. Donc là, on a vraiment mené une grosse action, alors voilà, de participation aux enquêtes publiques et de mobilisation. On a commencé à faire une première manifestation. Donc là, on s'est rassemblé avec Mohamed, avec Spoutnik, mais aussi avec l'association de sauvegarde du village romainvillois qui est en veille sur le patrimoine, puisqu'il faut savoir que on n'est pas du tout pour une ville figée. Je pense que la ville doit évoluer, mais sauf qu'à Romainville, il y a eu une destruction systématique de ce qui était intéressant et ce qui aurait pu valoriser la ville. Donc voilà, et aussi on a travaillé avec Romainville Sud, donc ça c'est toute la partie limite Montreuil, où il y a des gros problèmes de pollution avec des cas de cancer avérés, enfin c'est assez violent ce qu'ils vivent sur place. Et du coup, je pense qu'on a fait quand même un travail assez, je dirais, exemplaire en tant qu'association de pouvoir se coordonner malgré nos différences, nos différentes expertises, nos différentes personnalités. Donc voilà, on a fait, et on a beaucoup aussi alerté à la fois les citoyens, et en fait, faut dépenser une énergie folle pour mobiliser les citoyens sur ces questions, les médias. Faut savoir qu'on n'est quand même pas dans les projecteurs, en fait, c'est le 93, donc. Voilà, quelque part, voilà, c'est pas le focus, c'est pas le sujet premier des médias. Donc il a fallu aussi les convaincre de venir constater sur place ce qui était en train de se passer. Voilà, puisque là, la destruction du cœur de ville, c'est quand même assez violent. Vous détruisez un cœur historique, tous les cheminements, tout ce qui faisait la mixité de la ville. Aujourd'hui, il n'y a plus un lieu qui rassemble à la fois Gagarine, Cachin, le centre-ville, le bas-pays, tout le monde était un peu réuni autour de ce marché. Et même pour, moi je pense que dans le futur, ça va faire aussi des villes invivables, des villes sans centre, sans espace public, là on a des espaces verts, mais sans nature, la biodiversité était très importante et les arbres jouaient un rôle très important sur le climat urbain. Donc voilà, et au-delà de ça, en fait, à force d'être en veille sur ces sujets, on s'est aperçu que les villes limitrophes subissaient les mêmes situations, la même prédation aussi sur ces espaces communs. Donc de fil en aiguille, on s'est rassemblés avec les associations du 93, mais maintenant on a une coordination de défense des espaces verts et publics qui rassemble des villes du 91, du 92, du 93. Ce qui nous permet vraiment d'échanger des informations, puisque voilà, vous êtes en train de mener des guérillas juridiques, on n'est pas tous armés, moi je ne suis pas juriste. Donc au moins, ça permet de mobiliser les uns et les autres, de partager les expériences et de plus avancer tout seul. Et voilà, je sais qu'il y a par exemple l'association qui sauve le bois Grignon près d'Orly. Je pense que ça leur a fait aussi beaucoup de bien de comprendre qu'ils n'étaient plus tout seuls face à un maire et que ce n'est pas une question d'opposition politique, mais c'est une question de respect de nos droits, de la biodiversité. Enfin, c'est tellement important aujourd'hui.
Et Sylvain, en tant qu'historien, est-ce que tu peux nous expliquer si ou comment ton travail contribue à apporter, je ne sais pas si on peut parler de pièces à conviction, mais en tout cas un ensemble de documents quoi, et de nourriture quoi, pour un ensemble d'associations et de quelle manière ?
Oui, enfin moi, j'habite sur ce plateau, donc je m'intéresse en tant qu'habitant au sens fort, donc de qu'est-ce que c'est que le lieu où j'habite. Voilà, et je pense qu'il est important de savoir sur quoi on vit. Depuis longtemps, et je marchais dans cette forêt, donc aussi, j'habite à Bagnolet, mais c'était ma promenade principale. Et non, donc, juste en tant qu'historien, simplement, j'ai fait le travail d'archives, donc d'essayer d'aller récupérer les archives du projet, de comprendre ce qui était assez. Personne ne connaissait bien ce projet, y compris les promoteurs actuels à la région disent des choses qui sont totalement fausses. Donc c'était intéressant de reprendre ce travail, de dépouiller les pièces, retrouver des documents de 2002 qui montrent qu'on voulait autre chose depuis. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de faire ce travail-là de mémoire dans la durée courte ou plus longue pour avoir cette perspective de longue durée. Mais juste pour ajouter sur ce qu'a dit Julie, ce qu'on a fait comme mobilisation aussi à l'automne a été assez exemplaire parce qu'on a rencontré des gens, on s'est retrouvés tous sur cette donc le parc départemental qui est à l'abandon mais qui est très chouette et qui est un très bel espace public où on a eu vraiment des très beaux moments de discussion. On a rencontré plein de gens, de Pantin, enfin entre nous on ne se connaissait pas, de Pantin, de Noisy-le-Sec, des Lilas. On a participé après, on a été invité à participer à d'autres mobilisations autour du dans tous les effets du Grand Paris. Il y a toute une série de projets du Grand Paris qui sont destructeurs et on a lancé un départ de la marche pour le climat de décembre, le 8 décembre, en faisant venir aussi sur place à Romainville des représentants de différents combats d'Île-de-France ou Strasbourg, par exemple. Donc on a aussi cette question de solidarité, de sentir qu'on est... Alors, c'est la région parisienne, mais au-delà, tous ces projets d'aménagement qui sont maintenant totalement obsolètes et absolument plus raisonnables vu les urgences qui ont un peu évolué.
Je me permets de poser une question. Alors, du point de vue de l'institution, enfin, des collectivités territoriales en l'occurrence, donc c'est peut-être pas une question facile à poser, mais est-ce que l'argument de la mixité sociale a été défendu par les autorités ?
Ah mais non, mais ils s'en foutent.
Alors à cette question,
Mohamed.
Oui, à cette question, je vais vous répondre. La mixité sociale, elle est existante depuis plus de, je sais pas, j'ai toujours connu moi, mais apparemment il y en a qui veulent pas l'avoir. Et par contre, ils l'utilisent entre la mixité. Alors, il y a différentes choses qu'ils utilisent. La mixité sociale dans un premier temps, la délinquance dans un deuxième temps, l'insécurité. C'est simple, hein. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est exactement comme ça qu'ils procèdent. Par exemple, je vous dirais qu'à Romainville, le budget de la jeunesse, je crois que, à ma connaissance, il était pas loin de 30 000 euros. Moi, je sais qu'il n'y a aucune subvention, hein, qui est, c'est-à-dire aucune subvention, aucune association à Romainville. Pas une maison de quartier à Guégarine. Imaginez-vous, plus de 3 000 habitants, pas une maison de quartier. Pas un local pour se rencontrer.
Le terrain de basket.
Alors, les aires de jeu, dans un premier temps, on a démoli, on avait un terrain de foot, ainsi qu'une grande aire de jeu dans le centre de la cité, ça a été démoli. On a soi-disant reconstruit un pôle éducatif sur la partie aire de jeu pour les enfants.
Maurice Bastier,
exactement. Un pôle éducatif. Et par la suite, l'équivalent de l'aire de jeu, on l'a préservé et barricadé pour un promoteur privé. Et on a reconstruit une aire de jeu qui doit faire aux alentours de 50 mètres sur 100 mètres, voilà, pour tous les enfants en bas âge de Guégarine. Hein. Et sachez que la tranche d'âge, c'est de 3 ans jusqu'à 14 ans. Hein. Donc, ça, ils ont vite fait de s'accumuler, de se marcher dessus, les pauvres enfants. Voilà. Ainsi que récemment, il restait un terrain de basket au niveau du bâtiment L, c'est-à-dire à l'autre bout de Guégarine, pas loin de l'avenue Vassou, qui a été rétrocédé à BNP Paribas. Super. Politique de la jeunesse, elle est magnifique à Guégarine.
C'est pas voilà. Pour faire du basket.
Non. Ah bah non.
On imagine, bien sûr.
Non, parce qu'il l'avait complètement cloisonné, les jeunes n'avaient pu aller jouer. Eh ben, on l'a décloisonné pour le rendre, c'est-à-dire accessible aux jeunes. Au jour d'aujourd'hui, il y a les permis de construire qui sont affichés dessus, en faveur de BNP Paribas, et il y a les jeunes qui continuent à jouer dessus. Voilà, on n'a pas le choix, hein. C'est uniquement la résistance. Maintenant, autre chose. Concernant la forêt, moi, je pense, on commence par déraciner les arbres, par la suite, on déracine la population. C'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est une procédure de gentrification. Je vous cacherai pas que certains ont entendu dire... Il faut renouveler la population de Romainville. Et c'est ce qui se passe actuellement. Hein. C'est ce qui se passe actuellement. Ça fait des années, ça se renouvelle, mais tant mieux. Mais si c'est au détriment d'autres populations, là, on ne peut pas, on ne peut vraiment pas le...
Alors concrètement, c'est le bâtiment B de la cité Guégarine qui, en premier, va disparaître dans les prévisions.
Concrètement, pourquoi ? Parce qu'il est mitoyen d'un terrain qui a été destiné aux promoteurs pour faire de la construction... en accession à la propriété. Donc, on va casser du HLM et on va fournir un terrain beaucoup plus vaste pour pouvoir construire. Après, par la suite, c'est le bâtiment H, celui qui est le plus proche de leur soi-disant base de loisirs. Enfin, bon.
Donc là, on est dans la procédure de relogement en 2019 pour une destruction prévue 2020.
Ah, bah, procédure de relogement, oui, c'est ce qu'ils disent, mais maintenant, ils ne savent vraiment pas où est-ce qu'ils vont reloger les gens. Comme je vous ai dit, il y a 442 logements qui vont être démolis, il y en a 220 qui vont être construits. Il va bien y avoir 230 familles. On va les reloger où, ces 230 familles? On va bien les reloger ailleurs, sans compter que maintenant, on dépend de Seine-Saint-Denis Habitat. Auparavant, c'était Romainville Habitat, donc c'est une obligation de les reloger sur la commune. Mais maintenant que c'est Seine-Saint-Denis Habitat, on peut les expédier sur toute la Seine-Saint-Denis. Ça veut dire là où personne n'a envie d'aller habiter, quoi, tout simplement. Hélas, hein, hélas, il y a des quartiers. Ça veut dire on va délocaliser des gens à contre-cœur. Et les gens sont totalement opposés. Hein.
Et Simon?
Et du coup, les mobilisations aujourd'hui, elles en sont où? Et qu'est-ce qui se discute, en fait, entre les différentes associations?
La seule association à Guégarine... Enfin, on était trois associations, mais bon, on va dire, les seules associations qui sont reconnues à Romainville, c'est ceux qui vont dans le sens de la municipalité. Maintenant, nous, Spoutnik, on n'a jamais eu droit à une audience quelconque, malgré qu'on a fait... On a fait des manifs où il y avait plus de 1000 personnes à Romainville et malgré tout, voilà. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup médiatisé, hein, on a beaucoup levé le voile, hein, sur notre commune. Hein. On a beaucoup médiatisé. Malheureusement, les médias ne viennent uniquement que quand il y a des faits divers. Nous, on a essayé de les ramener pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe vraiment à Romainville. Parce que bon, il n'y a pas que à Guégarine. Hein. Je vous cache pas qu'au bas-pays aussi, hein, il faut descendre. Hein. Ça veut dire... voilà quoi, la future base de loisirs a fait monter le prix du mètre carré et là ça bétonne à tout va. Et pourtant, je vous cache pas qu'au bas-pays, par exemple, tenez, un petit, ça fait plus de 8 ans qu'ils n'ont pas un seul magasin d'alimentation en bas. C'est un quartier totalement délaissé. J'ai rencontré des personnes âgées qui me disaient, écoute, toute la semaine on mange, on boit du lait et on mange des petits brins parce qu'on peut pas aller faire les courses. Voilà, totalement délaissé, totalement. Et j'ai cru entendre dire que le quartier des Bas-Pays allait être déclaré zone touristique, je crois. C'est bien ça, Julie, hein? On est d'accord?
Oui, c'est en fait, il faut savoir quand même, à Romainville, il y a un manque d'équipement public aussi assez criant. Donc voilà, là, ça construit énormément, mais par exemple, on n'a pas de lycée. Donc voilà, on a mis 14 millions pour ouvrir 4 hectares supplémentaires de parcs, alors qu'il y a des parcs délaissés. Mais on n'a pas de lycée, il n'y a pas de commissariat pour l'ensemble de nos villes. Voilà, on dépend tous du commissariat des Lilas. Donc voilà, il se pose aussi la question du fléchage de l'argent public et de son utilisation, surtout dans une période assez contrainte en termes de budget. Alors où on en est en termes de la mobilisation? Donc alors le collectif s'est scindé en deux à l'hiver, voilà, c'était assez tendu et puis tout le monde n'était pas d'accord sur les formes de mobilisation. Il y a une partie donc l'association des Amis de la Corniche des Forts qui continue de se mobiliser sur le terrain le dimanche. Et nous, on s'est regroupés en tant qu'association et citoyens. Donc il y a un recours qui a été déposé par Environnement 93 et la coordination eau contre le permis d'aménager, puisque souvent les recours juridiques sont un peu les seuls à bloquer ces projets, en sachant que là, on ne reviendra pas en arrière sur la destruction des arbres. Et donc qui est piloté par Sébastien Lebriero, qui est un avocat défenseur de l'environnement. Le 9 mars, on a fait une marche avec l'association Arbre, qui a en fait reconnu le patrimoine arboré de la Corniche des Forts et le travail des associations. Il faut savoir que là, ils portent au niveau de l'Assemblée nationale une proposition, une déclaration des droits de l'arbre, pour que ensuite la transformer en proposition de loi. On a aussi fait toute une série de propositions pour l'aménagement en surface des 8 hectares pour qu'il soit beaucoup moins intrusif, puisque là, vous avez des agrès en fer, vous avez de l'éco-pâturage, cette passerelle dont a parlé Sylvain, qui sont vraiment en limite de forêt. Et si on veut que la biodiversité qui a déjà été très malmenée puisse survivre, il faut lui préserver une zone de réserve, tout comme il faut préserver les franges de ces parcs qui sont aujourd'hui l'objet... Enfin, vous avez beaucoup de constructions très, très proches des parcs. Il faut qu'une ville puisse respirer. Voilà. Après, on intervient aussi beaucoup au niveau des politiques pour attirer leur attention sur ce que nous, on a vécu, sur ce qu'on se constate dans toutes ces villes de première couronne, voire plus loin. Hein. Vous avez aussi toute la prédation sur les terres agricoles avec Europa City. Et voilà, on essaie de faire en sorte qu'ils mettent cette question du vivant un peu plus au centre de leurs préoccupations.
Europa City, c'est le projet Agonès de ce grand complexe touristique qui se passe donc au nord de la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise.
Voilà, au détriment des terres agricoles qui permettraient peut-être pas l'autonomie alimentaire de Paris, mais au moins une partie. Et c'est franchement des questions sur lesquelles il faut qu'on ait la maîtrise maintenant.
Et vous parliez tout à l'heure de rassemblements entre différentes associations justement qui luttent contre certains projets de réaménagement du Grand Paris. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir ou est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur voilà, un peu l'agenda peut-être de...
Alors l'agenda, alors là c'est plus l'agenda institutionnel. Le 10 avril, vous avez une réunion sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc il faut quand même s'en mêler un petit peu puisque c'est le document d'urbanisme qui va décider des grandes orientations du territoire pour les 15 ans à venir. Donc voilà, nous on demande le classement de cette forêt. Elle bénéficie à l'heure actuelle d'aucune protection en fait. Et en fait cette forêt était classée dans les années 2000, elle a été déclassée. Et aujourd'hui, malgré les déclarations d'intention, elle n'est pas protégée. Donc nous, on demande le classement. Alors ça peut être à différents niveaux. Ça peut être dans le PLUI, au niveau du département, au niveau de l'État. Il me semble qu'il y a un rendez-vous en préparation. J'ai lu ça avec Gilles Clément début mai, mais ça, il faudra le confirmer un peu plus tard. Mais ça, ce n'est pas au niveau associatif.
Mais surtout, non, on est sur le point, donc dans la procédure contre le projet de le permis d'aménager, de demander une médiation juridictionnelle, donc d'engager une démarche qui contraint, enfin, qui donne l'occasion à la région et à la mairie de Romainville d'ouvrir enfin la discussion pour qu'on puisse discuter sur le fond, une fois qu'ils ont détruit les arbres, comblé les galeries, qu'est-ce qu'on fait de la surface et comment est-ce qu'on peut arriver à trouver la solution, à la fois la meilleure écologiquement et la moins chère, parce qu'il y a aussi ce volet de gaspillage d'argent depuis 20 ans qui est totalement délirant. Donc on attend aussi un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la base de loisirs depuis 20 ans et une dérive financière absolument ahurissante. Donc, voilà, on attend différentes choses et on reste mobilisé et il y aura encore des surprises dans ce dossier.
Je voulais dire aussi qu'il y a une pétition en ligne sur change.org qui a plus de 30 000 signatures, ce qui est déjà assez énorme pour un combat qui était initialement local mais qui est devenu très emblématique de la sauvegarde des arbres et de la biodiversité et qui a un financement participatif pour soutenir le recours qui est porté par la coordination Eau et Environnement 93 sur Eloasso.
Mohamed, un dernier mot ?
Oui, bien sûr. Bah, écoutez, effectivement, comme disait Sylvain, du gaspillage, on a demandé des renseignements concernant le projet de la corniche, effectivement. Et puis, normalement, je crois que la loi permet à ce qu'on puisse les obtenir. Donc là, je pense qu'incessamment sous peu, on va devoir faire un recours si auprès de la CADA, si on n'obtient pas ces informations. Et j'invite vos auditeurs, s'ils veulent se faire une idée... S'ils veulent se faire une idée du climat romainvillois, eh bien, ils vont sur Vimeo, ils essayent de regarder Résident de la République. C'est un film associatif que l'on a tourné, Résident de la République, Joyce Edor. Et je pense que ça va définir exactement le climat, d'ailleurs, qui nous a valu une plainte en justice. Voilà. Parce que bon, hélas, révéler des réalités, voilà.
Merci beaucoup Mohamed. On retrouvera de toute façon un certain nombre de liens qui ont été évoqués pendant l'émission sur le site de R22.fr. Aussi les liens publiés de ce que Sylvain Piron a publié dans Lundi Matin pour avoir une vue la plus exhaustive possible de tout ce débat qui va se poursuivre avec le public dans quelques instants. Vous avez compris, il s'agit de la fin de ce premier plateau du Tout Monde. Donc merci beaucoup à Frédéric pour cette première partie d'entretien, qui donc est rédacteur en chef de L'Autre Musique et donc collabore avec Le Lieu pour Respirer qui nous accueille ce soir. Et merci à Victor également pour la technique ce soir et Holden qui va nous proposer un générique toujours en live avec son violon. Merci évidemment à tous les invités. Pour ce moment de respiration, R22.fr donc sera le lieu d'hébergement de l'émission en podcast jusqu'au bout de la vie. Et le dimanche se termine tous ensemble. Donc juste avant de se rejoindre pour une petite discussion avec le public, merci encore et bonne semaine à tous.